Swing Time 2026. Swing Time 2026 sur Swing FM 101.2 en DAB+ et sur le net, la radio du Hot Club de Limoges. Une émission préparée et présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier. Bonjour Alain.
Bonjour Willy.
Au plaisir de se voir encore et oui, d'écouter le deuxième volet de ton émission.
Voilà, deuxième volet du jazz selon Tintin, voilà. Et donc, on va entendre à nouveau du jazz, on va continuer cette aventure du jazz vue par le journal Tintin dans un numéro, je vous rappelle, de 1962. Et encore une fois, je vais éclairer cette approche par le point de vue de Hugues Panassier sur chacun des musiciens évoqués et que l'on va entendre. La seconde partie du jazz selon Tintin continue d'énumérer les différents instruments et nous commencerons aujourd'hui par les saxophones, instrument essentiel dans le jazz, et nous irons jusqu'à l'évocation des instruments eux-mêmes et ce sera juste l'occasion d'écouter du bon jazz, c'est tout en fait, c'est un prétexte cette émission de jazz selon Tintin. On va commencer par les différents saxophones et on va découvrir dans cette superbe interprétation placée sous l'autorité d'un maître du saxophone qui est Coleman Hawkins, on va entendre successivement un ténor tenu par Coleman Hawkins, un saxo alto tenu par Tab Smith, à nouveau un saxophone ténor mais tenu cette fois par Don Byas, puis un saxophone baryton que tiendra Harry Carney. On reviendra à Hawkins à la fin avec son ténor. Et c'est un titre qui dit bien ce qu'il veut dire puisqu'il s'intitule « Battle of the Saxes » et c'est enregistré à New York le 5 mai 1944. Mm-hmm. C'était un morceau prodigieux, je trouve, et qui était finalement pédagogique pour qui veut apprendre à distinguer les différents saxophones. Alors, en plus, dans l'orchestre, il y avait Johnny Guarnieri au piano, Al Lucas à la basse et Sidney Catlett à la batterie. On va commencer maintenant la revue de détail des saxophones avec un des plus petits, qui est le saxophone alto. Le meilleur sur cet instrument est sans conteste Johnny Hodges, je crois que c'est pas discutable vraiment cela. Et au début des années 50, il avait quitté Duke Ellington pour former de brillantes petites formations de studio. Et voici un exemple significatif, ça s'intitule Globetrotter et c'est à New York le 3 mars 1951. Antonio Judd s'est entouré notamment ici d'Ellingtonien, mais au piano c'était Billy Strayer, n'est pas le Duke. À la trompette, on avait Emmett Berry qui n'est pas un Ellingtonien, Al Sears au ténor, au trombone, un petit peu mou, mais ça c'est Lawrence Boone, c'est son style, à la contrebasse, Lloyd Trondheim et à la batterie, Sonny Greer. Et pour Hugh Panassier, c'était un des plus grands saxophonistes alto. Il parlait de Johnny Hodges, bien sûr. Je dirais même, c'est peut-être, mais c'est même sans doute, le plus grand, et pas un des plus grands. Je dirais, moi, c'est le plus grand saxophoniste alto de l'histoire du jazz. Alors, savez-vous aussi qu'il existe un saxophone tout droit ? Un saxophone, enfin, en général, il est tout droit. Un saxophone qu'a popularisé, notamment en France, Sidney Bechet. À cette époque, quand le Tintin était sorti, ce saxophone est le soprano qu'on appelait dans le milieu la carotte. Et je voudrais qu'on l'apprécie, ce saxophone manié par Marc Laferrière, qui était cité dans le Tintin. C'est un morceau typique qui s'intitule « Souhait » et c'est enregistré à Aix-les-Bains, après l'apparition du journal. Hein. On est le 19 mai 2000, mais c'est pour entendre un soprano. C'était un peu une histoire de famille parce qu'au sousaphone, c'était Olivier Laferrière et à la batterie, c'était Stan Laferrière. Les fistons, évidemment, de notre ami Marc Laferrière. À la trompette, on avait Bosquero. Au trombone, c'était Latsi Farkas. Au piano, il y avait Eddie Bernard. Au banjo, il y avait Nicolas Pellier. Et dans les dictionnaires d'Hugues Panassier, figurez-vous, les deux dictionnaires qui sont parus, il n'y a pas de référence à ce bon musicien français qui était... Enfin, bonjour Marc, hein, qu'est Marc Laferrière, et c'est bien dommage. Pour évoquer le saxophone ténor, quoi de plus normal que de citer Coleman Hawkins, déjà évoqué tout à l'heure. Et le voici au sommet de son art dans les années 40, au sein d'un flamboyant quartet jouant justement Flame Sour, New York, le 17 février 1944. Piano, il y avait Teddy Wilson, à la contrebasse, c'était le jeune Israel Crosby, à la batterie, fantastique, Cozy Cole. Et pour Hugues Panassier, Coleman Hawkins était le roi du saxophone ténor et l'un des plus grands solistes du jazz. Voilà ce qu'écrivait Hugues Panassier à propos de notre saxophoniste. Pour le saxophone baryton, il y a encore moins d'hésitation, le seul qui en a fait un instrument continuellement mélodieux, même, j'oserais dire, aérien, c'est Harry Carney. C'est un pilier de l'orchestre de Duke Ellington. Et les voici, Harry Carney et Duke, dans un morceau intitulé Frustration, New York, le 7 août 1945. ¶¶ Superbe, enfin je pense que c'était superbe.
On ne peut pas dire autrement.
Voilà, donc superbe. Et donc on va passer au cuivre maintenant. Et on va commencer par ce qui a précédé la trompette dans le jazz au début des années 20. Dans le jazz enregistré j'entends. Et c'est le cornet que j'évoque. Et voici le roi du cornet, grand trompettiste aussi après, mais surtout un joueur de cornet. C'était King Oliver, le maître de Louis Armstrong qui a joué du cornet à ce moment-là. On écoute King Oliver qui dirige un orchestre pour nous interpréter Deeper Mouse Blues. C'est le 6 avril 1923 à Richmond dans l'Indiana.
Thank you.
bien, c'était King Oliver qui jouait les solos, y compris la partie en wah-wah, mais il y avait un second cordet que j'ai toujours évoqué. C'était Louis Armstrong qui, lui, prenait les breaks et les petites courtes phrases musicales qu'on entend, ça et là. À la clarinette, Johnny Dodds, et c'est Bill Johnson qui aurait crié « Oh, play that thing ». Il ne jouait pas dans le morceau, mais il était présent dans le studio. Donc on suppose, ça a été dit par plusieurs témoins, mais je ne sais pas si c'est absolument juste, mais sans doute c'était Bill Johnson qui a dit « Oh, play that thing ». Pour Hugues Panassier, King Oliver est un des plus grands et des plus anciens musiciens de jazz. On va prendre un autre cornettiste célèbre des débuts du jazz. On va aller du côté des Jeunes Blancs de Chicago dans les années 20, fin des années 20. Et voici donc Bix Beiderbecke and his gang dans le célèbre Somebody Stole My Gal. Et c'est à New York, l'enregistrement, 17 avril 1928. À la clarinette, c'était alors quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, hein, Izzy Friedman, mais on ne se souvient plus de son nom, mais lui, il ne se souvenait plus du couplet, parce qu'il a improvisé sur « My Melancholy Baby ». Quand on réécoutera l'émission, on s'en rendra peut-être compte. Et si on ne s'en rend pas compte, ce n'est pas grave de toute façon. Au piano, Roy Bargy, au trombone, Bill Rank, au saxo-basse. Alors, au saxo-basse, c'est plus rare, mais on l'entend derrière. En fait, c'est un instrument rythmique. Ce gars-là s'intitulait Min Laybrook. Hugues Panassier, qui avait apprécié Bix Beiderbecke au début, ne l'a pas cité plutôt dans sa disco critique, hein, mais il avait exprimé son envie de le connaître au début qu'il s'intéressait au jazz, et on peut retrouver ce désir de le rencontrer, de le connaître dans son livre 12 années de jazz. C'était des souvenirs qui se situaient entre 1927 et 1938. On va passer au violon maintenant, et notre journal Tintin évoque forcément Stéphane Grappelli. À l'époque, on met un Y parce que Grappelli voulait que son nom fasse un petit peu anglo-saxon. Hein. Il y a eu Andrea Persiani qui avait le même genre de coquetterie, mais en fait c'était un I, c'était des gars d'origine italienne. On va écouter Stéphane dans un titre enregistré quelques mois avant la parution de notre chère revue du jeudi, notre Tintin. C'est une composition de John Lewis, absolument, et ça s'intitule Django. On voit qui ça évoque, Paris. Le 9 mars 1962, le journal est du mois d'août 62 tout de même, c'est raccord tout ça. On écoute. Thank you. Eh bien, notre violoniste était en quartet avec des musiciens qu'il servait bien. Ils étaient là plutôt à son service. Il y avait Pierre Cavalli, notamment à la guitare. Dans l'ouvrage d'Hugues Panassier, déjà cité, donc la discocritique, Stéphane Grappelli est totalement associé à Django Reinhardt via le quintet du Hot Club de France. Mais comment parler du violon de jazz sans faire entendre un des maîtres de l'instrument qui est Stuff Smith? Et on va écouter une sérénade, un petit bijou avec Jonah Jones à la trompette. C'est une sérénade pour une riche veuve. C'est pas une veuve joyeuse, c'est une riche veuve. Ça s'intitule Serenade for a Wealthy Widow, New York, 1er juillet 1936. Piano, il y avait James Sherman, à la guitare Bobby Bennett et à la batterie Cozy Cole, pour évoquer donc cette riche veuve. Et selon Hugues Panassier, nul musicien n'a swingé un violon comme Stuff Smith, et on vient de l'entendre. L'instrument suivant est le vibraphone. Alors là aussi, il n'y a pas du tout de débat. On va voir, plutôt on va entendre le maître sur cet instrument, c'est-à-dire Lionel Hampton. Et l'auteur de l'article a peut-être écouté cette reprise de Biola's Bogey, parce que ça a été enregistré à New York le 10 mars 1960, donc très peu de temps avant la parution de notre journal Tintin. On écoute. « Lionel Hampton trouvait ici au sein d'une moyenne formation. Il y avait même quatre trombones, dont un trombone basse qu'on pouvait remarquer à la fin. C'était un orchestre de 9 musiciens, donc un honnête. Et il y avait notamment son guitariste attitré, si je peux dire, Billy McKell. Et Hugues Panassier remarque à propos de Lionel Hampton sa personnalité particulièrement dynamique et c'est son jeu maintenant qu'il évoque d'une virtuosité étourdissante. On va passer à un autre instrument, un instrument d'accompagnement qui a été un peu, je dirais, dans les orchestres l'ancêtre de la contrebasse, mais il était supplanté par la contrebasse. Il s'agit du tuba. Et on peut se tourner vers un joueur de tuba puis de contrebasse exceptionnel qui était John Kirby. Il a commencé à jouer du tuba au sein de l'orchestre de Fletcher Anderson. Alors les solos de John Kirby au tuba, ça c'est plus que rare, mais on l'entend bien dans le morceau que j'ai retenu. Et vous allez remarquer combien la rythmique s'appuie sur le souffle puissant et régulier de John Kirby avec son tuba. Ça s'appelle Just Blows, New York, le 10 avril 1931. Je vais vous indiquer les solistes, mais il faudrait peut-être réécouter l'émission et prendre en note ce que je vais dire. Et puis on réécoute les solistes dans l'ordre. Claude Jones au trombone, Bobby Stark à la trompette, puis Rex Stewart qui lui joue du cornet, donc on distingue tout de même bien la trompette et le cornet. Au ténor, c'était Coleman Hawkins. À nouveau Bobby Stark à la trompette, Benny Burton qui joue du trombone, c'est pas le même style que Claude Jones. Bobby Stark revient une troisième fois pour finir ce morceau. Et Hugues Panassier notait que John Kirby aimait les orchestrations fignolées, et je pense qu'il a dû apprécier cette orchestration du 10 avril 1931. Supputation que je fais, mais je suis à peu près sûr que c'est juste ce que je dis. Alors, on a vu tous les instruments avec les musiciens qui étaient évoqués en même temps. Et je voudrais que l'on continue à lire ce petit article de Tintin, qui était fort long, hein, qui était en trois parties dans le journal. Et maintenant qu'on a passé les instruments en revue, le journal Tintin propose un ABC du jazz en recommandant des disques de musiciens qui sont choisis en fonction de l'instrument. Donc on revient tout de même un peu à l'instrument. Alors je n'ai pas tout repris, mais j'en prends un certain nombre. Pour la batterie, eh bien tiens, on va prendre l'orchestre de Chick Webb. Chick Webb était le batteur et le chef de l'orchestre. Et on va entendre un morceau avec une jeune chanteuse que je ne connais pas trop. Vous allez me le dire après l'écoute de ce Undecided qui a été enregistré à New York le 18 août 1938. Comme le faisait remarquer Hugues Panassier, il y avait des breaks extraordinaires par Chick Webb à la batterie. Alors, pour la chanteuse, il y a eu explosion du standard de Swing FM. Évidemment, tout le monde avait reconnu la toute jeune Ella Fitzgerald, qui était déjà si brillante comme chanteuse. Le solo de saxophone ténor, je pense, était dû à Ted McRae. On va passer à la contrebasse. Alors, je disais que Jimmy Blanton, dans l'émission précédente, n'avait pas été repéré en tant que tel, mais il est indiqué comme une référence. On va donc en profiter pour l'écouter à l'occasion de cet ABC du jazz, selon le journal Tintin. Et on va écouter Jimmy Blanton avec son grand chef-d'œuvre qu'il a joué avec son chef, Duke Ellington. Ça s'intitule Peter Panzer Pater et c'est à New York le 1er octobre 1940. L'importance de Jimmy Blanton était telle que, nous précise Luc Panassier, on a parlé de la période Jimmy Blanton pour analyser l'œuvre de Duke Ellington tout de même. Il y a eu Duke avec Jimmy Blanton et Duke sans Jimmy Blanton, avant et après évidemment. Côté piano, alors beaucoup de pianistes ont été nommés, mais pas en tant que pianiste, deux des grands chefs d'orchestre, Duke Ellington et Count Basie, qui étaient aussi d'excellents pianistes. Alors, on vient d'entendre Duke Ellington, on va donc passer au Comte, à Count Basie, en petite formation, nous jouant Swinging the Blues, New York, le 20 mai 1947. il y avait seulement 8 musiciens avec Count Basie, dont Paul Gonsalves au ténor, à l'époque où Paul Gonsalves était dans la bande à Basie, à la trompette Emmett Berry. Alors, pour la section rythmique, c'était du classique. Freddie Green à la guitare, Walter Page à la contrebasse et Joe Jones à la batterie. Et Hugues Panassier nous dit que la partie de piano de Count Basie est l'élément essentiel des interprétations de cet orchestre. Dont acte, on va le noter comme ça. Alors figurez-vous maintenant que pour la guitare, il y a enfin un bluesman qui est nommé, parce que là c'était du jazz pur et dur, je mets des guillemets à tout ça, il y avait le blues, le gospel n'était pas là. Et qui est-ce qu'ils ont nommé? C'était tout simplement le grand Big Bill Bronzy. Alors c'est vrai qu'il était assez souvent présent en France, connu en France, admiré en France à l'époque tout de même. Donc c'est Big Bill, on en profite pour l'écouter dans High Wonder, enregistré à Chicago tout de même, le 4 février 1949.
Am I too late? Am I just in time? Should I do what I'm thinking? Baby, should I change my mind? Now, what did I do, baby, to be treated like I am? When I come home from work, baby, I can hear my back door slam. I wonder, yes, I wonder, I have never mistreated nobody. Even I know that deep down in my soul. I will do better. Yes, and I mean that from my heart. Baby, tell me, have the souvenirs I give you turned blue? Baby, I know it's something, is something wrong, baby. I can't even get a letter from you.
À la batterie, il y avait Alfred Wallace. Et pour Hugues Panassier, nous avons là, il parle de Big Bill Bronzy évidemment, l'un des plus typiques représentants du blues primitif. Et il faut bien entendre et comprendre le terme primitif au sens de premier, hein, pas terrible évidemment, c'est le premier, ce qui est à la base de tout. Le blues, la base du jazz avec le gospel, tout ça, ça forme un tout. On va changer de style maintenant en revenant à la trompette dans la partie ABC, hein, du jazz. Et la revue en question, le Tintin, cite, figurez-vous, Harry James, qui ici s'est pas mal inspiré de Louis Armstrong. On écoute I'm Confessing, enregistré à Los Angeles le 21 novembre 1944. le saxophoniste alto était Willie Smith, qui avait été embauché dans le grand orchestre de Harry James à l'époque. Voilà. On avait au piano Arnold Ross, un contrebassiste pas très connu, hein, même totalement inconnu, Ed Mirlich, etc. Alors, Hugues Panassier fait l'impasse de ce trompettiste dans sa discocritique. Il faut dire qu'il donnait pas mal dans le commercial aussi, Harry James. Mais on retrouve, comme dans le dictionnaire du jazz des années 70, on retrouve le nom d'Harry James chez Hugues Panassier tout de même. Il y a un clarinettiste qui est fort justement mentionné dans notre fameux Tintin d'août 1962. Il faut dire que c'était un Français, qu'il était alors assez connu, il était assez à la mode, c'était le courant du jazz revival, le style Nouvelle-Orléans plaisait beaucoup. Il s'agit de Maxime Sory, que voici dans le célèbre Perdido Street Blues, enregistré à Paris le 14 septembre 1960, 2 ans avant la parution du Tintin. Qui était du jazz contemporain de notre revue Tintin, évidemment. Alors, c'est un musicien, Maxime Sory, qui a bercé notre tendre jeunesse, enfin pour certains d'entre nous, évidemment. Mais c'était un jazz qui était très, très entraînant, effectivement. Alors, on ne l'a pas dans la discocritique de Hugues Panassier, mais on l'a dans son dictionnaire des années 70. On va donner le nom des musiciens de l'orchestre, parce que c'est un bon orchestre. Il y avait Jean-Claude Naud à la trompette, Michel Kamikas au trombone, Gérard Rigaud-Pelouse qui jouait du piano, Guy Ray à la contrebasse. Je signale que Guy Ray était cité comme contrebassiste dans le journal Tintin, hein, c'est vous dire, et Robert Peguet qui jouait de la batterie, un garçon lui aussi connu. On va terminer avec un petit air d'orgue pour finir, puisque l'orgue est cité tout à fait à la fin. Alors, ben, je vais désigner Ray Charles, c'est lui qui va s'y coller. Et on écoute Ray Charles à l'orgue dans Tell Me How Do You Feel, Dis-moi comment je me sens. Très bien, n'est-ce pas? New York, le 28 octobre 1958.
Best friend.
I want to know.
Yeah.
I want to know.
Do you feel like going crazy? Or do you feel you've always been?
I want to know.
Hey,
I want to
hey.
Know. I want to know.
Tell me how do you feel when your baby crosses your mind?
I want to know.
I wanna know.
I want to know.
Tell me how do you feel when your baby crosses your mind?
I want to know.
Yeah.
I want to know.
Do you crack up with loud laughter? Or do you break down and start crying?
I want to know. I want to know.
Tell me how do you feel, partner? I want the truth and not a lie.
I want to know.
That's what I said.
I want to know.
Tell me how do you feel, partner? I want the truth and not a lie.
I want to know.
Yeah.
I want to know.
Because if you feel good on the inside, I must admit you're a much better man than I.
I want to know. I want to know. I want to know.
Would you feel happy or would you feel sad when you've lost the best girl that you've ever had? I want to know.
I want to know.
I want to know. Sad when you've lost the best girl that you've ever had. I wanna know.
I want to know.
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 Yeah, I wanna know.
I want to know.
I wanna know.
I want to know.
I wanna know.
I want to know. I want to know. I want to know.
It's all right.
I want to know.
It's all right.
I want to know.
It's all right.
I want to know.
It's all right now.
I want to know.
Ça, c'est entraînant. Hein. Alors, le saxophoniste ténor au son un petit peu, à la sonorité un petit peu âcre, c'était bien sûr David Newman. Et encore plus évident, le chœur des Raelettes, les Raelettes d'origine, avec Ray Charles. Eh bien, notre émission, la deuxième émission sur Tintin et le jazz est terminée. J'espère que cette double émission, tout même un peu improbable au départ, vous a plu, mais l'essentiel c'était d'écouter du jazz, hein. C'était un simple prétexte, hein. C'est du jazz que l'on aime, c'est aussi un petit peu de nostalgie pour les amateurs de jazz les plus âgés, moi je ne les ai pas connus, c'est, voilà, je suis beaucoup trop jeune, mais il y en avait qui lisaient à l'époque Tintin, chaque jeudi, et commençaient aussi à s'intéresser au jazz. Non, finalement, je crois que c'est mon époque, hein. Ça va être, oui, j'ai dû faire la même chose, hein. Je lisais Tintin et j'écoutais du jazz. Et j'ai dit, je crois, dans la première émission que j'avais archivé ce numéro de Tintin dans mes dossiers jazz. C'est là, dans ma bibliothèque. Ne venez pas me le piquer, s'il vous plaît. Je ne vous dirai pas que c'est à côté des livres du Panassier, sinon vous allez le retrouver tout de suite. Je remarque aussi qu'à cette époque, on est au début des années 60, le jazz était un sujet grand public et pouvait être offert aux plus jeunes dans une revue adressée à la jeunesse, à la tendre jeunesse. Hein. Et puis, on avait une radio comme Europe 1, notamment, Europe numéro 1 même à l'époque, qui diffusait une émission sur le jazz. C'était pour ceux qui aiment le jazz, me semble-t-il, c'était 10h du soir, on disait pas 22h, on disait 10h du soir, et on écoutait ça peut-être dans son lit, parce qu'on se couchait un petit peu tôt, mais on mettait notre petit transistor doucement pour pas que les parents entendent. On écoutait pour ceux qui aiment le jazz, Frank Teno, Daniel Filipacchi. Voilà, on pouvait lire Tintin, écouter du jazz à Europe numéro 1 ou ailleurs. Disons qu'avec ces deux émissions, j'ai partagé quelques souvenirs qui doivent parler à beaucoup d'entre vous de 7 à 77 ans et même un petit peu après de 77 ans. J'ai fini.
C'était Swing Time 2026, une émission préparée et présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier. Et mon cher Alain, merci encore pour cette émission. On a fait de belles découvertes.
On a fait en tout cas de l'écoute de jazz, du bon jazz comme on aime. Voilà.
Absolument. Et bon, plus des découvertes à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que Swing FM propose toujours de superbes jazz, blues et gospel.
Voilà. Émission qu'on entend le jeudi à 21h. Et puis ensuite, le dimanche matin, au moment de l'apéritif, au moment où on prépare les repas. Et puis le lundi, c'est midi, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est pour les commerçants qui ne travaillent pas le lundi, c'est précis, comme c'est organisé. Et le mercredi, eh bien, c'est à 17h30, c'est pour les jeunes qui rentrent de leurs activités de l'après-midi. Ils ont fini leurs devoirs, évidemment, donc ils peuvent écouter Swing FM et Swing Time.
À la semaine prochaine.
Au revoir à tout le monde, à la semaine prochaine.